France Inter.
Aujourd'hui, mathématiques dans les coulisses du chaos et de la beauté, racontées par...
Cédric Villani, mathématicien, professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, intellectuel jardinier.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
On imagine souvent les mathématiciens penchés sur un bureau entouré de livres, de formules et de tableaux noirs. On les voit en train de calculer, de raisonner, de démontrer. Mais la réalité serait tout autre. Au cœur de leur travail, il existe un moment étrangement humain, profondément mystérieux, qui échappe à toutes les règles. L'instant où une idée surgit sans prévenir. Cet instant ne naît pas sous le regard attentif du raisonnement. Il apparaît ailleurs, dans la fatigue d'une marche, dans le balancement d'un bus, dans la distraction d'un trajet, dans l'espace intérieur de la pensée en tous les cas. Les heures de travail accumulées, les tentatives infructueuses, les pistes effondrées semblent soudain converger et alors tout bascule. Ce qui résistait depuis des jours, parfois des mois, se met en ordre en une fraction de seconde. L'intuition devient une fulgurance. Ce qui paraissait opaque se révèle d'une clarté presque brutale. La fulgurance ne remplace pas la rigueur, elle l'invite, elle donne une direction. Il appartient ensuite aux mathématiciens de la franchir, d'éclairer chaque marche, de justifier chaque pas. L'instant de lumière ne vaut que s'il devient démonstration. Et c'est précisément dans cette tension entre intuition et discipline que les mathématiques prennent toute leur humanité. Ce sont, au fond, des histoires de tâtonnements et d'erreurs fécondes où l'on apprend que la beauté peut surgir d'un calcul et que la poésie peut se cacher dans une équation. Les mathématiques ne sont donc pas un catalogue de résultats, mais une aventure vivante où les idées ne tombent pas du ciel, mais naissent de la persévérance et de la curiosité. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Cédric Villani.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous publiez aux éditions du Cherche Midi Leçons de mathématiques joyeuses au singulier d'ailleurs.
J'aime bien le singulier.
Oui, on parle de la mathématique
alors. Moi j'aime bien. Il y a une tradition parfois considérée comme un peu pédante pour le mettre au singulier qui a toujours existé. Mais après tout, réfléchissez-y. Pourquoi mathématiques serait au pluriel alors que toutes les autres disciplines, l'histoire, la géographie, la philosophie, la musique seraient au singulier?
Mais parce qu'elles pourraient se distinguer, justement.
Mais moi, certes, elle est plus belle que tant et tant d'autres, mais je ne vais pas jusqu'à prétendre qu'elle a un statut différent des autres sciences.
Est-ce qu'avec ce livre, Cédric Villani, on peut considérer que vous faites votre retour auprès du grand public avec ce sujet qui vous a fait connaître et avec lequel on vous avait un petit peu perdu de vue quand même depuis quelques temps?
C'est pas aussi simple que ça, mais il y a un peu de ça. Et le fait d'avoir, en 2022, d'être passé à un autre chapitre de ma vie, sans délivrer de toutes les contraintes liées au mandat politique, et d'avoir eu le temps de reprendre des projets qui me tenaient à cœur de longue date, fait que vous avez cet ouvrage, fait que j'ai pu republier des articles de recherche, fait que j'ai pu reprendre un cours qui me tenait beaucoup à cœur à l'université, que j'ai commencé à l'université de Lyon et que je continue à l'université de Rennes.
Ouais.
Et cet ouvrage en est bien l'illustration. C'est le moment de reprendre des projets qui me tiennent à cœur et qui étaient dans les tiroirs pendant quelques années.
Ouais, mais ça vous a manqué en fait? Ça correspond à un moment particulier où...
J'avais de quoi m'occuper et je me suis jamais ennuyé ou j'ai éprouvé le manque. Mais je peux vous dire que ça m'a fait du bien de me remettre dans ces sujets avec le même capacité d'obsession que ce que j'ai pu éprouver dans le temps.
Ouais.
C'est bien quand vous avez la chance de pouvoir vous obséder pour un sujet qui vous tient à cœur et quand vous êtes là sur une affaire où vous voulez vous réaliser, chercher en vous les solutions et les bons mots, les bons enchaînements, la bonne œuvre qui vous fera avancer, qui fera avancer les autres.
Et cette obsession, elle se traduit comment ? Concrètement, alors, c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne en permanence, nuit et jour?
Ça a été l'une des choses les plus importantes dans ma vie de chercheur que d'arriver à m'obséder pour un sujet. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est venu comme ça.
Mmh.
Et parfois, on s'obsède pour un livre, parfois, on s'obsède pour un résultat de recherche. plus tard en politique, ça m'est arrivé d'être obsédé sur tel ou tel sujet, tel ou tel projet de loi, bien sûr. Mais l'obsession, elle se traduit très concrètement par le fait que du matin au soir, vous avez ce petit sujet qui est dans votre tête et qui vous dit là, il faut y penser, l'enchaînement des idées ne va pas, comment tu vas réécrire le chapitre, quel mot on va trouver pour ça, et une petite voix qui vous dit, tant que l'œuvre n'est pas arrivée au moment où elle devrait être, je ne vais pas te laisser tranquille. Ouais. J'ai connu à plusieurs reprises de façon très aiguë. Je me souviens du moment où j'étais sur des gros bouquins de recherche, comme mon ouvrage sur le transport optimal, où littéralement j'en étais à me demander le matin, le soir, comment je vais faire. Je me souviens de cette fois où je me suis retrouvé comme dans un film de Cédric Clapiche, mais c'était avant que le film de Cédric Clapiche soit là, tellement obsédé par le fait de réviser et taper mon ouvrage, et dans un train en panne de batterie, que la seule solution que j'avais, c'était de m'enfermer dans les toilettes pour profiter de la batterie secteur.
Ce qui n'est pas la chose la plus agréable dans un train.
Ce qui n'est pas
français,
la chose la plus agréable, mais c'était un tel besoin de pouvoir travailler encore sur l'ouvrage, exactement comme le héros de ce film de Cédric Clapiche quelques années plus tard. Et cette faculté d'obsession, elle m'a accompagné parfois avec succès, parfois moins, mais elle a été une partie très importante de ma carrière de chercheur.
Oui, donc vous êtes un obsédé chronique quand même, Cédric Villani.
Obsédé chronique est le terme.
Voilà, que ce soit les mathématiques, la politique ou même le jardin, parce qu'on pourra en parler, ça se manifeste.
Le jardin, tout se manifeste. Ces temps-ci, depuis 3 ans, je fréquente activement un club de récitation poétique, le club des poètes tenu par Blaise Ronet dans le 7e arrondissement. Eh bien, là aussi, ça occupe maintenant mes transports, quand je suis dans le métro ou dans le train, avec un moment à perdre dans une correspondance, je révise mes poèmes, ceux du moment, ceux que je suis en train d'apprendre, ceux que je suis en train de perfectionner. Ça participe à l'obsession, et vous savez quoi ? On se sent bien quand on est comme ça.
Est-ce que vous êtes en repos parfois, ou pas ?
Heureusement.
Mentalement.
Heureusement.
Ouais. Meilleure est-ce chose... que votre cerveau se fait une petite pause
D'abord, il faut dormir,
est-ce que
c'est important. Et s'il y a un des regrets que j'ai, pas beaucoup de regrets par rapport à l'ensemble de ma vie, mais à un moment, j'ai pas assez dormi, et je le regrette, il faut dormir la nuit, ne serait-ce que c'est important pour le fonctionnement des idées, c'est important pour l'assimilation des souvenirs, donc il faut prendre ça, et puis je connais rien de mieux pour le repos que d'avoir son jardin que vous cultivez, c'est quelque chose aussi à quoi je me suis mis il y a quelques années.
C'est ça, c'est nouveau quand même ça aussi.
C'était en 2022, c'était un plan né dans la tension du confinement et du Covid, finalement, ça serait bien quand même. On voit comme on a besoin de se raccrocher à un lopin de terre, à voir les choses pousser, à planter, à pousser, à regarder évoluer, à soigner et à avoir, alors, c'est pas un bien grand jardin, mais j'ai mes 1300 mètres carrés, de quoi planter ici et là, de quoi avoir quelques animaux qui sont installés et qui peuvent se balader dans le jardin et observer les animaux, ça fait partie des choses qui vous raccroche à la vie, qui vous permettent de vous reposer tout en gardant votre admiration pour la poésie de la vie.
Donc l'intellectuel jardinier, terme que vous utilisiez tout à l'heure dans votre présentation.
Jardinier au sens des idées et puis au sens de la terre.
Au sens propre, là aussi, pour le coup. Votre première émotion avec les mathématiques, Cédric Villani, vous vous en souvenez exactement ou pas ? C'est un point précis dans votre vie ?
Non, c'est pas un point précis, mais tout gamin, c'était déjà là, disons. C'était pas forcément une passion ou une obsession, mais un intérêt. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça drôle, je trouvais ça amusant. Et puis, que ce soit même des activités très élémentaires à l'école primaire, classer des formes, écrire des figures et ainsi de suite. Et je fais partie de ces gamins qui sont tout de suite dit « Bah oui, ah bah c'est intéressant, ah bah c'est ludique et continuons. » Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont bien accroché. Je me souviens encore du nom de tous mes professeurs de mathématiques et de certains moments particuliers. Et je me souviens de ce cours de quatrième où notre professeur, pour la première fois, nous a parlé de ce que c'était qu'une démonstration, une preuve mathématique, sans soupçonner que ma carrière professionnelle, ma carrière mathématique en tout cas, ça allait être écrire des preuves, transmettre des preuves, perfectionner des preuves et ainsi de suite. Et chaque année, des preuves plus compliquées que l'année précédente. Je me souviens de telle ou telle fois où je suis allé timidement dire au prof, à la prof, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le cours parce que tel argument, j'ai l'impression que là j'ai un contre-exemple. Et vous savez, la mathématique, c'est la seule discipline où vous avez les moyens de contester ce que dit l'autorité, votre professeur, ouais. parce que vous avez avec vous les ingrédients, les outils, les figures, les idées.
Et la première fois que ça vous est arrivé, ça vous aviez quel âge ?
Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Je me souviens que la prof a très bien réagi, a dit c'était au lycée, ça, je pense.
Ouais.
C'était au lycée. Je me souviens que la prof a très bien réagi, a dit je vais vérifier. Elle est revenue le lendemain en disant oui, vous aviez raison, ici il y a quelque chose. Et a expliqué à la classe attention, là j'ai dit un truc, mais ce n'est pas exactement ça, etc. À corriger. Plus tard, ça m'est arrivé dans ma carrière professionnelle, le même genre de figure. Moi, jeune thésard, rencontrant un professeur bien avec une carrière déjà bien établie et dire j'ai l'impression d'avoir trouvé un bug. C'était avec Giuseppe Toscani de l'université de Pavie et non seulement il a reconnu qu'il y avait une faute, mais il m'a invité dans la suite à l'université de Pavie. On a fait une excellente collaboration ensemble et c'était le début de tout un pan de mon activité de recherche.
Ouais. Est-ce que vous avez des élèves par contre qui, comme vous, sont venus vous dire pardon mais professeur Villani, vous êtes planté sur cette équation et il faudrait revoir un
petit peu. Ça m'est arrivé très souvent.
Ah, d'accord.
Très souvent, aussi bien dans mes cours d'université, et c'est un peu normal. Un cours d'université, on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi bien léché qu'un cours de lycée. Et ça m'est arrivé, là, telle hypothèse, telle... Il y a des petits bugs, et encore la semaine dernière, à l'université de Rennes, des étudiants me demandant, là, les quantificateurs, etc. Et c'est bien même, c'est une façon d'engager davantage les étudiants quand ils ont le moyen comme ça de vérifier, de corriger. Du temps que je faisais un cours en ligne, un MOOC comme on dit, une formation en ligne ouverte à tous, j'ai pu voir ce que c'est la force du nombre quand vous avez 1000 ou 10 000 personnes qui suivent votre cours et qui font des retours. Le moindre petit problème, ils vont vous le signaler, ça c'est la force du nombre.
Et vous le vivez toujours bien ça ou...
Et ça je le vis toujours bien, quand c'est de bonne foi. Et avec mes étudiants en thèse, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. D'abord, j'ai énormément appris de mes étudiants. J'aurais jamais décroché la médaille Fields sans la coopération et le soutien actif de mes élèves ou anciens élèves, en particulier Clément Mouhot, qui avait été mon premier élève en thèse et qui avait joué un rôle, qui avait été mon partenaire de cordée, si je puis dire, à l'assaut de l'amortissement lambda. Oui, ça m'est arrivé avec plusieurs de mes anciens élèves, dont j'en ai eu des très très fortiches, comme Alessio Figali, qui a reçu la médaille Fields en 2018, avec une grande carrière maintenant professeur à l'université de Zurich. On apprend toujours beaucoup de ses élèves quand, quand on prend l'enseignement d'une façon ouverte.
Cédric Villani, vous revendiquez donc, c'est le titre de votre livre, une mathématique joyeuse. Est-ce que vous pensez que c'est facile justement de transmettre à la fois le plaisir de comprendre, la joie intellectuelle, alors qu'on associe souvent les maths à de la souffrance ?
Souffrance, grisaille, désert.
Voilà.
C'est le mot, ce sont les mots, les qualificatifs peut-être,
c'est très engageant,
qui viennent là pour parler de mathématiques. Il y avait un peu de ça d'ailleurs, il y a 10 ans j'avais publié un ouvrage qui était une sorte de journal de bord sur l'élaboration d'un théorème mathématique, et j'avais appelé Théorème vivant.
C'était chez Grasset.
Chez Grasset. En partie en référence à un ouvrage de mon enfance qui me fascinait, Désert vivant. C'était un ouvrage de Walt Disney, ouvrage illustré. On voyait, et vous voyez, vous aviez les illustrations, les petits gerboises, les fennecs, les araignées du désert, les fleurs et tout ça. Et un désert, ça semble morne et aride. Et on sait bien qu'il y a des moments quand on sait où regarder, quand telle oasis, telle période, où ça devient quelque chose de magnifique, de luxuriant. Encore, quand j'étais en colloque récemment à Taman Rasset, j'ai pu voir une de ces oasis qui, dans le désert, vous apporte tellement, tellement de bonheur. Et ben, un mathématique, c'est comme ça. On peut croire que c'est le désert, mais quand on sait où et comment regarder, c'est plein de vie. Et c'est pas facile de convaincre des gens qui ont eu une expérience traumatique, mais combien j'en ai vu qui viennent me voir en fin de conférence grand public en me disant « Je regrette, je suis passé à côté de quelque chose, j'avais pas réalisé à quel point mathématiques c'est passionnant, à quel point c'est incrusté dans l'histoire humaine, à quel point il y a de l'aventure derrière. » Et donc c'est ça que j'essaie de faire passer dans ces leçons de mathématiques joyeuses, le fait que la mathématique, c'est pas un truc désincarné, inventé pour se faire du mal, c'est quelque chose qui a accompagné l'humanité dans toutes ses réalisations et ses évolutions, tant du côté philosophique que du côté technologique, que du côté des grands mouvements sociaux et politiques. Et la mathématique, c'est quelque chose qui est plein d'aventures, et avec ça, des coups de théâtre.
À n'importe quel âge ou pas? On peut s'y remettre, si on a loupé la première marche?
À n'importe quel âge, on peut s'y remettre. Il ne s'agit pas de devenir mathématicien ou mathématicienne professionnelle à tout âge, mais de l'apprécier de la même façon que vous pouvez, à n'importe quel âge, vous mettre à cultiver votre jardin, pas pour devenir agriculteur professionnel, mais pour profiter du plaisir de cultiver son jardin. Et de la même façon, à n'importe quel âge, on peut se remettre au plaisir de manipuler des concepts mathématiques, de faire des petits exercices, de comprendre de quoi il s'agit. Ça participe de la culture et à se sentir bien. Et la mathématique, c'est pas seulement une discipline scientifique, c'est aussi une école de pensée, un apprentissage pour la rigueur, pour l'imagination, pour la ténacité, machine à embrancher les concepts qui fait du bien dans toutes les activités intellectuelles.
Leçon de mathématiques joyeuse, c'est aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes notre invité cet après-midi, Cédric Villani, pour nous en parler.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Il est certain que cela, ce sentiment esthétique comme on dit, ce choix entre ce qui paraît beau, adéquat, convenable, qui correspond à ce que l'on veut, eh bien, ces sentiments sont constamment présents dans la création mathématique. Évidemment, sous une forme, faut-il dire plus subtile, plus cachée, peut-être pas. Car les éléments que le mathématicien agence, la peinture qu'il étale, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des pensées, ce sont des mouvements de pensée. Mais les mouvements de pensée mis dans n'importe quel ordre, ça n'est pas satisfaisant.
Et c'est la voix du mathématicien Georges Théodule Guilbault en 1965, avec lequel d'ailleurs Cédric Villani, vous partagez d'avoir fait l'école normale supérieure, lui en 32 et vous en 92.
Comme il a bien parlé.
Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec le mouvement de la pensée dont
complètement
il parle,
d'accord. Ouais. Ce regard esthétique sur la mathématique, c'est dans une grande tradition. Déjà, Aristote disait que la mathématique était la forme la plus belle d'expression de la pensée humaine et y trouvait les trois qualités fondamentales qui, selon lui, déterminaient la beauté, savoir l'ordre, la précision et la commensurabilité. Et donc, quand Guilbault parle de l'ordre dans lequel les pensées doivent être agencées, certains qui sont beaux, d'autres pas, on retrouve ce souci qu'avait Aristote, aussi bien l'ordre, la façon d'ordonner le monde, d'ordonner les pensées, que la commensurabilité, la façon dont les idées ou les nombres vont se répondre les uns aux autres. On est très sensible à ça en mathématiques. Il y a une démarche poétique dans la mathématique, il s'agit de recréer un monde qui s'inspire de la réalité, un monde dans lequel les choses vont se répondre harmonieusement avec des éléments de surprise aussi qui participeront à la beauté esthétique.
Ouais. Vous publiez donc Leçon de mathématiques joyeuses, vous racontez que la géométrie du triangle vous fascinait au lycée. De quoi il s'agit exactement?
Lycéen, c'était la géométrie du triangle, mon grand amour. La géométrie, dont on a l'habitude, hein, ça, vous avez des triangles, des cercles, des droites qui se rencontrent, le théorème de Pascal avec lequel vous construisez à partir d'une conique trois points qui vont se retrouver comme miraculeusement alignés, la droite le théorème de Ménélaus et ainsi de suite. C'est un sujet sur lequel il n'y a plus de recherche. C'est un sujet qui, en termes universitaires, est un sujet complet, mort, mais c'est un sujet passionnant pour l'apprentissage du raisonnement. Et vous y apprenez l'une des leçons fondamentales, qui est une leçon valable en mathématiques, mais pour toutes les sciences. On part d'un émerveillement par rapport à quelque chose qui semble une coïncidence, tiens, trois points qui sont toujours alignés, et on remplace cet émerveillement par l'admiration devant un beau raisonnement. Il n'y a pas de miracle en science. Vous partez de quelque chose qui semble incroyable, une régularité, ça peut être vrai en physique ou en biologie, quelque chose d'incroyable, et vous le remplacez par une belle explication.
Il n'y a pas de miracle.
Il n'y a pas de miracle. Chaque fois que quelque chose vous semble miraculeux, c'est qu'il y a un beau raisonnement derrière, et à vous de trouver le bon raisonnement ou le bel enchaînement d'idées. Donc c'était la géométrie du triangle, mon grand amour de collège, de lycée. J'avais ces petits carnets dans lesquels je notais des théorèmes. La formule de Al-Kashir du grand mathématicien arabe Al-Kashir était ma préférée. C'est la généralisation du théorème de Pythagore quand l'angle n'est pas droit. Plus tard, ça a été mon grand amour pour l'algèbre, puis ça a été l'analyse, puis la physique mathématique. Et aujourd'hui, j'ai fait ma carrière de recherche en physique mathématique et physique statistique, et puis en domaine à l'interface entre probabilité et analyse, et un peu de géométrie.
Et est-ce que vous êtes spécialisé justement? On doit se spécialiser en mathématiques, ou au contraire, le champ est très ouvert et on peut aller explorer tout un tas de choses très différentes, ou où c'est mieux justement de préciser les choses.
Si vous voulez aller profond en sciences aujourd'hui, il faut spécialiser. C'est vrai en mathématiques comme dans toutes les autres sciences. On dit qu'Henri Poincaré...
Est-ce que c'est pas dommage ça justement? Est-ce que ça vous coupe pas de tout un tas de choses qui ont fait aussi la culture du gentilhomme quoi?
Dommage ou pas, c'est la vie. Rien ne vous empêche d'avoir votre domaine de spécialité et de vous intéresser à tout le reste. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je ferai un séminaire en visioconférence avec une tête de Rutgers, dont le nom sera Fisher Information Estimates and Boltzmann Collisions, un truc hyper spécialisé. Et puis, je présiderai une séance dans la foulée de la Fondation de l'écologie politique, où on parlera de sujets bien plus généraux, bien plus en lien avec des choses de société et autres. Rien ne vous empêche, dans votre parcours, d'être très spécialisé sur certains domaines et en même temps curieux de tout. C'est même recommandé.
Oui, parce que les grandes figures qui étaient à la fois mathématiciens, philosophes, théologues, astronomes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire.
Il y en a eu, et je sais pas, il y a quelques années, on fêtait les 400 ans de Blaise Pascal, l'esprit universel. On peut penser au XVIIe siècle, vous aviez des Newton, des Leibniz, qui avaient une culture universelle. C'est juste impossible aujourd'hui d'être à la pointe du progrès scientifique dans toutes les disciplines. Même en mathématiques, c'est pas humainement possible d'être à la pointe sur plus que quelques pourcents. Quand je dis humainement possible, c'est juste le volume. Imaginez, chaque année, rien qu'en mathématiques, il se publie quelque chose comme 100 000 ou 200 000 nouveaux théorèmes. Chaque année. Et dans les autres disciplines, c'est encore plus gros.
C'est-à-dire que les Newton de l'époque avaient moins, finalement, de matière sur lesquelles réfléchir.
Beaucoup moins. Alors, ce qui est possible aujourd'hui, c'est à la fois d'être à la pointe ou dans le mouvement du front de la connaissance sur certains sujets particuliers et, dans le même temps, de s'intéresser à une large panoplie de sujets, de questionner les collègues. Il y a tout un ensemble d'institutions qui savent très bien faire des séminaires interdisciplinaires, des actions de rencontres entre disciplines. Moi-même, je co-organise chaque année en Crète, au mois de juillet, un festival qui s'appelle Festumpi, dans lequel il y a de la mathématique et de la musique, et où pendant 2 semaines se retrouvent et discutent aussi entre eux des mathématiciens, des musiciens, aussi bien en format de recherche qu'en format d'école d'été, qu'en format de conférence grand public. Tout ça est recommandé, mais c'est juste devenu humainement impossible d'être à la pointe de la recherche universitairement dans plusieurs domaines.
Cédric Villani, vous revenez dans votre livre sur la remise de votre médaille Fields en 2010. On va écouter à ce sujet-là une archive de TF1. C'était le 19 août 2010, en l'occurrence.
Ngo Bao Chao et Cédric Villani, deux Français récompensés aujourd'hui en Inde de la médaille Fields, une sorte de prix Nobel pour les maths. Alexia Mayer a eu en ligne Cédric Villani, l'un des deux lauréats.
C'est un peu comme un rêve, hein. J'étais extrêmement ému ce matin, j'ai très peu dormi. Évidemment, le sentiment, c'est un mélange, une grande fierté pour la récompense des efforts qui ont été accomplis pendant des longues années. La curiosité, c'est une des principales qualités du mathématicien, la curiosité, l'inventivité.
Voilà, c'était il y a 15 ans, et ça a été un vrai changement de statut pour vous, cette médaille, Cédric Villani.
Changement considérable, pas tellement au sein de la communauté mathématique, vous savez. Quand c'est ultra regardé, quand vous êtes dans le pool des fieldisables, puisqu'il y a une limite d'âge à 40 ans, il n'y a pas tant de candidats potentiels, donc vous avez déjà une grande notoriété avant de recevoir la médaille Fields. Mais en revanche, par rapport à tout le reste de la société, ça a été un changement majeur. On était deux, le reportage le rappelle bien, mon collègue Ngo Bao Chao, franco-vietnamien, a reçu la médaille Fields en même temps. Le fait qu'on était 2 sur 4 Français à l'époque, le fait aussi... Vous savez, les congrès internationaux des mathématiciens, ça revient tous les 4 ans et c'est aligné sur le contrat de la Coupe du Monde. Et il se trouve qu'en 2010, l'équipe de France avait fait de piètres résultats. Et alors,
c'est ça,
les Françaises blessées dans leur orgueil par les mauvais résultats des footballeurs se sont dit « Ah ben au moins en mathématiques, il y a ça !» Et donc ça a été un embrasement. Alors, la France est un pays qui a une relation passionnelle avec la mathématique. Avec beaucoup de la souffrance, comme on l'évoquait tout à l'heure. Beaucoup trop de pression, bien sûr, et trop d'angoisse, mais aussi de très grands résultats, grand succès en recherche. Les médailles Fields, il y en a 14 Français l'ont reçu sur 64 lauréats. C'est considérable. Ben ouais. C'est numéro un mondial avec les États-Unis ex aequo. La France, depuis le XVIIe siècle, est l'un des pays les plus au fait de la recherche mathématique. C'est même la mathématique et la discipline universitaire dans laquelle la France a le plus d'impact à travers le monde. Et ça, il faut en être fier et se dire, voilà, il y a une tradition mathématique et aussi parce que la mathématique, ça va bien peut-être avec l'esprit français, un peu d'abstraction, d'universalisme, parce qu'il y a une culture, une école, des écoles avec aussi un brassage des idées. Mais il faut aussi savoir relâcher la pression sur une discipline qui est associée à tellement d'angoisse pour nos jeunes. Alors,
ça veut dire quoi, relâcher la pression? De quelle pression vous
parlez,
pression, en fait?
C'est la pression qui est mise par la société, par le système, par c'est dur à dire, mais nos gamins, on le sait, on a les études, sont parmi les plus anxieux de toute l'OCDE quand il s'agit d'être dans un cours de mathématiques. Et en plus, on a un différentiel d'angoisse entre les filles et les garçons qui est l'un des plus forts.
Ouais.
Donc la France, c'est ce pays où les clichés ont la vie dure et où les gamins sentent, parfois on leur a dit explicitement, parfois confusément, que « Ah, ce qui va se passer en maths, ça peut être inquiétant, ça peut être déterminant, ou les filles arrivent avec de l'appréhension et c'est un handicap. » Alors le cliché « garçon, les maths c'est pour les garçons et pas pour les filles », c'est un cliché à la noix, qui est cause de souffrance considérable et qui est démentie par tout ce qu'on a pu trouver et établir comme étude dans de bonnes conditions.
Mais ce qui est fou, Cédric Villani, c'est que vous disiez exactement la même chose il y a 15 ans.
Oui.
Moi, je me souviens parfaitement de ça. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de votre engagement médiatique. Hein. Vous disiez, moi, j'ai aussi envie d'être très présent dans les médias parce que j'ai envie que les choses changent. Or, force est de constater que 15 ans plus tard, on en est toujours au même point. Hein. La pression, elle est toujours la même.
Pression, ça fait partie de ces choses qui sont dans l'air, nourries avec des biais, des choses profondément ancrées dans les sociétés, c'est juste considérable de se battre contre cela. Mmh. Et nous sommes dans une époque où la pression a tendance à augmenter, ne serait-ce que par le jeu, par les facilités offertes par la communication à distance, par l'augmentation, l'explosion médiatique. L'explosion des images fait aussi que les préjugés et les biais cognitifs qui se propagent beaucoup par l'image ont tendance à augmenter. Nous sommes plutôt dans une époque d'augmentation des préjugés que dans une époque de diminution. Ce qui fait que aujourd'hui, comme il y a 15 ans, il faut toujours continuer à répéter toujours la même chose.
Ben, voilà.
Mathématiques, ne soyez pas anxieux. Prenez le temps de vous immerger dans un de ces traités, ouvrages qui vous parlent de grands projets mathématiques culturels.
Vous n'en avez pas marre, franchement, de répéter les mêmes discours depuis 15 ans et que rien ne change fondamentalement, alors que vous êtes quand même une des images aujourd'hui des maths, quand même?
Ben, si j'en avais marre, j'aurais pas publié le livre et je continuerais pas à faire tant et tant de conférences. Ce qui vous fait tenir, ce qui vous soutient, ce qui vous continue à vous faire briller quand vous faites ça, à vous faire briller vos yeux, c'est quand vous voyez justement dans les yeux de certaines personnes qui écoutent, ben, la petite lumière, et les gens qui viennent vous voir vous dire « Ah ben enfin, je vais pouvoir régler un de mes vieux comptes avec la discipline » et ainsi de suite.
Et c'est justement l'objet de ce livre, puisque vous regroupez un certain nombre de conférences que vous avez menées ces dernières années. Ça s'appelle « Leçons de mathématiques joyeuses ». On reste ensemble, Cédric Villani.
France Inter. La Terre au carré.
En 2011 est publiée l'équation de Badmann. Cette gigantesque équation est constituée d'une équation d'ellipse qui permet de tracer les ailes du logo, trois équations de droite permettent le tracé de la tête, une équation d'ellipse modifiée et symétrisée permet de tracer les jonctions, et enfin une équation à base de cercle permet de tracer les pattes. Notez que les grosses racines carrées permettent de rogner les courbes.
Extrait de la chaîne YouTube Kobe Pi, l'équation de Batman, Cédric Villani, vous qui dans cette leçon de mathématiques joyeuses, dans ces leçons, parlez justement beaucoup de chauves-souris. Cette équation de Batman, c'est du lard ou du cochon?
C'est de la chauve-souris, mais là, c'est du Batman. Alors c'est drôle, je me souviens, en écoutant à l'instant l'équation, je me suis souvenu, quand j'étais en terminale, c'était l'époque où on voyait les premières calculatrices avec des cristaux liquides et à grand écran, où vous pouviez afficher les équations.
Ouais.
Et je me souviens d'avoir bidouillé pour essayer de trouver une équation qui justement affichait le Batman. C'était aussi une époque où il y avait la folie des grands films hollywoodiens de Batman.
Donc elle existe vraiment, cette équation?
Ah ben oui, n'importe quelle forme. Vous pouvez toujours trouver une équation, un graphe qui s'en approche, quitte à faire des tâtonnements. Vous trouvez, vous savez, n'importe quel domaine de la vie, des idées, du monde réel, il y a toujours des équations derrière. Mon ami hongrois Gábor Domokos passe son temps à chercher des formes géométriques singulières dans des choses aussi différentes que la forme des plaques tectoniques sur le globe ou les rochers, les galets, et vous trouvez toujours quelque chose d'intéressant, parfois avec un accord qui est fait, parfois avec un bel accord. Alors,
pourquoi cette passion chauve-souris alors chez
chauve-souris,
vous
chauve-souris, d'abord, sont des animaux fascinants, juste fascinants en tant qu'être biologique. Vous savez, même si je me suis retrouvé mathématicien et passionné par la carrière mathématique, mon grand sujet de cœur, celui qui m'a toujours fait le plus vibrer, c'est la biologie évolutive et le pouvoir regarder et contempler le monde vivant en toute sa diversité. Charles Darwin était l'un des héros de mon enfance.
Charles.
C'est Charles. Bah Charles, comment vous l'appelez-vous?
J'avais ce... Bah Charles.
Charles, ouais.
Non, mais c'est très bien.
J'avais en tout cas cet ouvrage de Life, La vie sur Terre. Je l'ai toujours. Je me souviens, ça me fascinait quand j'étais gamin. Je lisais les aventures de Charles sur le Beagle.
Eh oui.
Et son grande aventure, les Galapagos, les pinsons et ainsi de suite.
Les vers de terre.
Les vers de terre. Son dernier essai.
Après.
Son dernier essai était sur les vers de terre, son dernier livre. Un personnage fascinant. J'aime bien rappeler que Darwin a attendu des années, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 ans, avant de publier ses conclusions avec l'origine des espèces, en écho à Copernic, qui lui aussi avait attendu des années avant de publier ses conclusions sur le système solaire. Donc les deux plus grandes révolutions scientifiques dans notre histoire, à chaque fois, ça a été des lents processus de maturation des années. Pour en revenir à la chauve-souris, ben, je fais régulièrement cette conférence mathématique de la chauve-souris. J'avais faite au début en 2011, qui était l'année internationale de la chauve-souris. Je m'étais dit, si c'est l'année de la chauve-souris, je vais faire une conférence de mathématiques sur la chauve-souris. En préparant la conférence, je m'étais rendu compte qu'il y avait encore plus de maths que je croyais dans la chauve-souris.
Alors pourquoi, oui, c'est ça.
Dans le vol de la chauve-souris et la façon de l'appréhender. D'ailleurs, il y a une équipe interdisciplinaire qui s'occupe de programmer, comprendre comment programmer un robot pour qu'il puisse voler aussi bien que la chauve-souris, ce qui est très difficile.
Oui.
Mais aussi dans la façon qu'a la chauve-souris d'analyser le signal. Du grand art, avec ce système d'écolocation, de sonar, façon d'intégrer les informations qui viennent de plusieurs endroits, en jouant sur l'effet Doppler, en jouant sur le retard du son. La chauve-souris fait aussi bien que presque aussi bien que l'optimum théorique, aussi bien que les calculs de nos plus savants ingénieurs. Elle fait ça dans un cerveau de quelques grammes, façonné par les merveilles de l'évolution des espèces. Chapeau.
Ouais. Chapeau pour la chauve-souris. Alors, vous parlez beaucoup de nature dans ce livre. On y évoque par exemple aussi le pollen, Robert Brown, avec son grain de pollen.
Bien sûr.
Alors ça, c'est aussi intéressant. Parce que
le botaniste Robert Brown...
C'est ça, la nature et les maths.
Qui a donné son nom au mouvement brownien et qui a compris que ce petit mouvement dans les pollens était dû à des lois physiques qu'il a observées au microscope, cette agitation. Alors,
mais ça, c'est fondamental pour comprendre la nature, par exemple.
Fondamental, c'est pas une idée nouvelle. On monte à Galilée, à Newton, à d'autres. Le livre le livre du monde est écrit en langage mathématique. C'est pas la seule façon qu'on a d'appréhender le monde. Comme disait le poète turc Hikmet, comprenant le monde comme un livre, le sentant comme un chant d'amour, s'étonnant comme un enfant, il y a toujours ces trois dimensions. Comprendre intellectuellement, ressentant les choses et le perpétuel interrogation, la curiosité. Mais si vous voulez vous interroger, par exemple, mieux comprendre le monde, le vivant, si vous vous intéressez à la sauvegarde de la planète, si vous vous intéressez aux questions de développement durable, vous avez besoin de mathématiques à plein de niveaux.
Ah bon ?
Vous en avez besoin pour les études scientifiques, le GIEC fait grosse consommation de toutes les sciences, y compris des questions statistiques,
pour les modélisations.
Vous avez même des gens qui construisent comme les gens de Data for Good, par exemple, sont impliqués là-dedans, des grands modèles de langage à destination du GIEC pour mieux se repérer dans la littérature, pour mieux convaincre le décideur. Vous avez aussi besoin de la culture mathématique pour apprécier les ordres de grandeur. Aucun plan de développement durable ne peut se faire sans des bons ordres de grandeur. Et puis, ça participe à votre émerveillement devant le monde. Une fois que vous avez vu la quantité de merveilles qu'il y a dans la chauve-souris, vous la regardez plus du même œil. Vous dites, là, il y a quelque chose de précieux qui est important de préserver.
Donc on est un meilleur écolo quand on maîtrise les maths, Cédric Villani ?
Il y a plein de façons d'être écolo, mais maîtriser les maths ne peut pas faire de mal. Vous savez qu'il y a une figure tutélaire emblématique et de part et d'autre que vous connaissez bien, je pense, Alexandre Grothendieck, qui est à la fois mathématicien de légende et un écologiste des fonds.
Sauf qu'il, lui, il a séparé les deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a dit dit...
Il a séparé les deux, il a dit j'abandonne l'un pour l'autre, mais dans sa façon exigeante de remettre en question le système et de s'engager à fond là-dedans, il y avait des réflexes et des habitudes de sa carrière mathématique.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Cédric Villani. Ah tiens, une question d'ailleurs qui va vous intéresser autour de l'intelligence artificielle, puisque vous avez fait tout un travail sur la question, Cédric Villani. C'est Marc qui vous demande si l'IA va remplacer le travail des mathématiciens.
L'IA va faire une partie du travail des mathématiciens, bien sûr, de la même façon que vous avez aujourd'hui des calculatrices qui font toutes les opérations de calcul qu'on n'a plus besoin de faire. Il y a eu une époque où vous avez besoin de savoir faire des gros calculs pour être mathématicien. Ce temps n'est plus. Maintenant, la mathématique, c'est pas seulement démontrer des choses, c'est pas seulement avoir des vérités, c'est aussi comprendre, c'est aussi transmettre quelle est l'idée de la preuve, qu'est-ce qui est important là-dedans, et ça c'est un travail qui est par définition humain, c'est un art qui se cultive. Pour ce qui est de l'IA, j'ai depuis longtemps déterminé que je continuerai à faire de la mathématique avec les moyens du bord, papier, crayon,
et cerveau,
tableau noir, cerveau, matière grise, sans me priver cependant d'utiliser les moteurs de recherche pour interroger la littérature et les connaissances.
Michel dit « J'aime les mathématiques, le problème c'est que nous n'avons pas tous la même vitesse d'assimilation. À l'école, tout est chronométré, tu suis, c'est bien, tu ne suis pas, tant pis pour toi.
» Il est vrai que le rythme peut être quelque chose de difficile et de paralysant. Pour autant, on a aussi des exemples de scientifiques et de mathématiciens qui ont fait une grande carrière alors qu'ils avaient besoin de temps pour assimiler, de mûrir très longuement. Les exemples que je donnais tout à l'heure avec Darwin ou Copernic doivent nous garder en tête parfois des choses, que ce soit personnellement ou pour toute la société, qui mûrissent longuement en sont d'autant mieux.
Ouais.
Et si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps.
Florence dit « Les physiciens exaspèrent souvent les mathématiciens par leur manque de rigueur mathématique, notamment sur les bornes des intégrales. Savez-vous si des erreurs importantes médiatiques dans votre milieu ont été faites à cause de ça ?»
Il est arrivé, oui, qu'il y ait des erreurs alors importantes, j'irai pas jusque-là, mais des erreurs, des vraies erreurs qui ont été faites de ci, de là par le manque de rigueur. Bon, les mathématiciens, ça leur arrive de chambrer les physiciens pour leur manque de rigueur. Un physicien, au contraire, de chambrer les mathématiciens en disant que c'est l'art de couper les cheveux en quatre.
Ouais.
À la fin des fins, on a besoin de tout le monde et ça dépend des occasions. Einstein est l'exemple le plus célèbre de quelqu'un qui, à un moment, d'abord passionné par la mathématique, passionné par la géométrie du triangle, très fier d'avoir retrouvé tout seul une nouvelle démonstration du théorème de Pythagore quand il était gamin.
Il aimait bien corriger ses profs, lui d'ailleurs aussi.
Il aimait bien corriger ses profs et il avait une admiration pour la mathématique, mais après il s'en est un peu détourné, puis il est revenu et il a dit, il a bien parlé de la relativité générale comme étant un sujet où il avait besoin des développements mathématiques les plus théoriques et les plus en pointe à son époque. En physique mathématique, on a le plaisir parfois, ça m'est arrivé, c'est vraiment une pépite que vous savourez, de découvrir quelque chose, soit une loi, en tout cas une règle physique qui avait échappé aux physiciens. Je dirais pas une question de manque de rigueur, mais en mathématiques, le fait de devoir gérer la rigueur vous oblige à trouver des chemins de traverse. Là, la contrainte vient avec la créativité.
Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que vous aviez du mal à cultiver des champignons dans votre jardin, Cédric Villani.
Très dur, pour le coup.
Oui, alors, profitez d'ailleurs de l'antenne, il y a peut-être des spécialistes qui pourraient vous aider, mais est-ce que les maths pourraient vous guider sur la voie d'une bonne culture de champignons ?
Là, j'en doute. J'ai trouvé de bonnes sources et de bonnes entreprises là-dessus pour les semences de champignons. Mes essais pour ensemencer des souches dans la partie la plus humide de mon jardin n'ont pas abouti, mais qu'est-ce qu'on
vous
va dire ?
Vous perdez pas espoir.
Rigueur et persévérance, ténacité, c'est ce que la recherche m'a appris et que je mettrai en œuvre là aussi.
Merci beaucoup à vous Cédric Villani. Leçon de mathématiques joyeuses, c'est aux éditions du Cherche Midi. Puis je voudrais renvoyer également sur le livre d'un autre mathématicien, Roger Mansuy.
Excellent livre.
Le Grand almanach mathématique, l'indicible foisonnement mathématique raconté en 367 jours par an. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup à vous d'être venu au micro de la Terre au Carré. À bientôt.
Merci Mathieu Vidard.